brioche tiède, bien moelleuse, super imbibée, un chocolat coulant, des noisettes qui croquent. Ça, c'est vraiment irrésistible.
En vidéo sur la chaîne YouTube de France Inter.
Et sur France Inter, il est 20h. Alexandra Duboucheron pour l'info. Bonsoir Alexandra.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Désormais, 6 étudiants de Sciences Po Paris sont en grève de la faim par solidarité avec les Palestiniens. Ils réclament aussi un vote interne sur les partenariats entre l'école et les universités israéliennes. Un sit-in dit pacifique est également en cours depuis 14h. Et ce soir, une centaine d'étudiants réunis en Assemblée Générale a voté pour l'occupation du campus. D'autres mobilisations pro-palestiniennes sont toujours en cours sur des campus à Lyon et à Lille notamment. La police, elle, est intervenue pour débloquer un site universitaire de Saint-Étienne aujourd'hui et aussi devant la Sorbonne à Paris. Mais de nouvelles actions sont annoncées dès demain. Ce mouvement est parti des États-Unis où la police est intervenue aujourd'hui pour évacuer un campement installé sur le site de l'université UC LA de Los Angeles. Des dizaines d'étudiants ont été interpellés. Et puis Joe Biden est sorti de son silence. Aujourd'hui, le président candidat appelle au retour de l'ordre tout en défendant la liberté d'expression.
Il n'y a pas de place pour les discours de haine ou la violence sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse d'antisémitisme, d'islamophobie ou de discrimination à l'encontre des Américains arabes ou des Américains palestiniens. C'est anti-américain. Je comprends que les gens aient des sentiments forts et des convictions profondes en Amérique. Nous respectons et protégeons leurs droits à les exprimer. Mais cela ne veut pas dire que tout est permis. Cela doit se faire sans violence, sans destruction. En tant que président, je défendrai toujours la liberté d'expression et je serai toujours aussi ferme dans la défense de l'état de droit. C'est ma responsabilité envers vous, le peuple américain, mon obligation envers la Constitution.
Le président américain Joe Biden. Des dizaines de milliers de personnes manifestent à nouveau ce soir à Tbilissi en Géorgie contre la loi sur l'influence étrangère, texte adopté hier en deuxième lecture par le Parlement. Avant une troisième lecture, ses détracteurs y voient un copier-coller d'une législation russe utilisée par Moscou pour réprimer les voix dissidentes. Ce soir, l'ONU réclame le retrait du projet de loi déjà critiqué par l'Union européenne et les États-Unis. Et puis les pays de l'OTAN se disent vivement préoccupés par les activités malveillantes de la Russie. Dans un communiqué publié ce soir, il dénonce les activités étatiques hostiles en République tchèque, en Estonie, en Allemagne, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne et au Royaume-Uni, comme des actes de sabotage, de violence ou encore des campagnes de désinformation. En France, une semaine après le discours fleuve d'Emmanuel Macron sur l'Europe à la Sorbonne, l'ARCOM a tranché. Le gendarme de l'audiovisuel annonce ce soir que ce discours de près de 2 heures sera décompté comme temps de parole du camp présidentiel pour les Européens. C'était une demande des oppositions, de gauche comme de droite. Depuis le 15 avril, toutes les télés et les radios doivent respecter un principe d'équité dans le traitement des forces politiques en lice pour le scrutin du 9 juin. Ce soir, c'est le premier duel télévisé entre les deux têtes de liste en tête des sondages. Valérie Ayé, la candidate de la majorité, et Jordan Bardella du Rassemblement National. Ce sera à partir de 21h chez nos confrères de BFM TV. Une élève de 16 ans, légèrement blessée aujourd'hui à Toulouse après une agression à l'arme blanche dans son lycée. Ça s'est passé pendant un cours de PS. Le suspect est un élève de terminale. Le parquet évoque une dispute amoureuse et des troubles psychiatriques. Une cellule psychologique sera ouverte dans l'établissement demain. Moins de la moitié des femmes de 50 à 74 ans sont allées à un dépistage du cancer du sein l'an dernier en France. Résultat d'une étude de Santé publique France aujourd'hui. Chiffre en baisse sur 10 ans. 48% l'an dernier contre 52% en 2011-2012. L'agence pointe notamment un impact persistant de la crise sanitaire liée au Covid-19. Le stade Vélodrome en ébullition ce soir. L'OM reçoit l'Atalanta Bergame en demi-finale aller de Ligue Europa de football. Les Marseillais sont 7e de Ligue 1. Les Italiens 6e de Serie A. Et le coup d'envoi, c'est à 21h.
L'humour d'Inter, c'est Charline Vanhoenacker.
Bruno Le Maire a annoncé que le bulletin de paix serait simplifié pour passer de 55 lignes à 15 lignes.
Ah, c'est dommage qu'il fasse pas la même chose avec ses bouquins.
Daniel Morin.
Mesdames, Messieurs, le problème technique est à présent résolu. Je vous demande encore un peu de patience. Un mulot s'est introduit dans le train et conformément à nos engagements avec l'association Amour du Vivant, nous devons attendre qu'il quitte de lui-même notre train.
L'humour d'Inter, c'est aussi en vidéo tous les jours sur le YouTube de France Inter.
Merci d'écouter France Inter, 20h05, à suivre Grand Canal avec Eva Bester. Bonsoir Eva.
Bonsoir Alexandra. Aujourd'hui, je reçois plusieurs personnes qui ont connu ou travaillé avec l'écrivain Paul Auster, disparu avant-hier à Brooklyn, pour une émission hommage à l'homme et à son œuvre.
Et tout de suite, le temps de se brosser les dents, voici des petits bateaux, Camille Crenier.
Et coucou les petites curieuses et les petits curieux, on parle de notre enveloppe, mais alors pas celle de la poste, hein, notre enveloppe corporelle.
Bonjour, je m'appelle Elia, j'ai 6 ans et demi, je voudrais savoir comment elle se fabrique la peau. Merci, au revoir.
Comment elle se fabrique la peau? Nina Ross, médecin dermatologue, expliquez tout à Elia s'il vous plaît.
Bonjour Elia, merci de poser cette question qui est importante pour moi. C'est important de comprendre comment la peau se fabrique parce que de ce fait, on va en prendre un petit peu mieux soin tout au long de sa vie. En fait, moi, j'ai envie de te répondre en distinguant le moment où la peau commence à se fabriquer lorsque le bébé est dans le ventre de sa mère et puis ensuite la façon dont la peau se renouvelle une fois qu'on est né et quand on devient adulte. Lorsque les enfants sont dans le ventre de leur mère, dans les toutes premières semaines de vie, il y a une période qui s'appelle l'embryogenèse. L'embryon se fabrique. Et il y a deux types de tissus qui se fabriquent et qui vont donner lieu à la peau plus tard, qui sont l'ectoderme, qui va donner l'épiderme, la couche la plus superficielle de la peau, mais également le système nerveux, le cerveau. Et il y a le mésoderme, qui est un petit feuillet qui va se différencier ensuite en derme et hypoderme. En fait, si on regarde la peau en coupe, on va voir de haut en bas l'épiderme, c'est des piles de cellules. Ensuite, on a une jonction entre l'épiderme et le derme. En dessous, on a le derme, qui est en fait un maillage, un tissu fibreux où il y a le collagène, le tissu de soutien de la peau et un petit peu d'eau. Et juste en dessous, il y a une couche de gras qui s'appelle l'hypoderme et qui est destinée à isoler notre corps et à protéger les muscles et les os qui sont en dessous. Ça, c'est avant la naissance. Après la naissance, notre peau, elle est finie. Donc, elle est faite d'un empilement de cellules en surface qui forme l'épiderme et ensuite d'un réseau fibreux en dessous qui forme le derme, et donc je le répète, ensuite une petite couche de gras qui est normale et naturelle, qui est l'hypoderme. Au cours de notre vie, les différentes parties de notre peau ne vont pas se fabriquer de la même façon, en fait. Au niveau de l'épiderme, on a comme un petit mur de briques, enfin un empilement de cellules, et la couche la plus profonde s'appelle la couche basale, il y a ce qu'on appelle des cellules souches, qui sont en fait des cellules qui se renouvellent tout le temps, et puis qui vont se différencier au fur et à mesure qu'elles remontent vers la surface pour donner lieu sur la couche la plus externe, à cette fameuse couche cornée qu'on appelle couche de cellules mortes.
Oui, la peau morte. Mais donc, ça remonte d'en dessous un peu comme des bulles dans une casserole.
Pour la couche qui est l'épiderme, les cellules de la peau remontent de bas en haut jusqu'à desquamer, c'est-à-dire qu'elles se détachent de façon invisible. Ça, c'est pour l'épiderme, qui est notre petite couche étanche hein, qui assure l'intégrité de la peau, qui la protège des agressions bactériennes, irritantes, environnementales, etc. En dessous, il y a le derme. Alors le derme, on en parle beaucoup parce que c'est là où il y a le collagène. En général, les gens savent ce que c'est que le collagène. Ce sont des fibres, en fait, qui assurent l'élasticité et la robustesse de la peau. Il n'y a pas que du collagène, il y a aussi des fibres de tissu élastique et de l'acide hyaluronique, qui est comme une éponge, c'est une grosse molécule qui va garder l'eau dans la peau. Ce collagène, il est fabriqué par des cellules qui s'appellent les fibroblastes, qui sont dans le derme, et qui vont renouveler jusqu'à une trentaine d'années de façon très efficace le collagène, l'élastine, l'acide hyaluronique, et puis à partir de 30 ans, c'est un renouvellement un petit peu moins efficace, on dit que la peau commence à vieillir.
Avec ensuite donc l'apparition des premières rides chez les femmes comme chez les hommes, et là, même si le cycle continue, c'est inévitable.
Pendant toute la vie, nos cellules se renouvellent en permanence, ça, il n'y a pas de fin à ce cycle-là, mais il y a des techniques qui permettent de stimuler le renouvellement ou d'obtenir un renouvellement de meilleure qualité si on veut lutter contre les rides.
Lesquelles ?
Une bonne hygiène de vie, limiter tous les facteurs d'agression et de vieillissement prématuré de la peau, et puis il y a des petites astuces de dermatologue pour stimuler le renouvellement de la peau. Une des astuces les plus connues, c'est d'utiliser des crèmes ou des soins exfoliants, c'est-à-dire de forcer la peau à peler un petit peu et à desquamer. On sait que ça active le renouvellement en dessous.
Mais vous avez quand même le temps, hein, les enfants. Et puis, c'est bien les rides aussi, c'est les marques de la vie qui passent et donc qui continuent, ne l'oublions pas. Salut les matelots.
Les petits bateaux, à retrouver quand vous voulez sur franceinter.fr et sur l'appli Radio France.
Et tout de suite, on retrouve Grand Canal avec vous, Eva Bester. Bonsoir.
Bonsoir Camille. Ce soir, nous rendons hommage à Paul Auster.
My days are dwindling, no matter what.
Mes jours sont comptés, quoi que je fasse.
And fewer days left,
et parce qu'il me reste peu de temps, je ressens encore plus de joie à être en vie, plus que jamais.
I'm really appreciating it. And so, in some sense,
Malgré les petites batailles quotidiennes, les hauts et les bas, les contrariétés auxquelles nous faisons tous face, je crois que je n'ai jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui. Voilà, donc oui, je vais mourir, et je le sais depuis que j'ai 3 ans. Mais ne pas savoir quand ça arrivera rend la vie passionnante.
La voix de Paul Auster en 2017 sur Louisiana Channel. Mardi 30 avril 2024, c'est-à-dire avant-hier, l'écrivain américain, poète, critique, essayiste et scénariste Paul Auster s'est éteint à l'âge de 77 ans. L'auteur de L'invention de la solitude, Moon Palace, Léviathan, Monsieur Vertigo, Le livre des illusions, Seul dans le noir ou encore le plus récent Baumgartner, celui qui a imaginé une quarantaine de livres traduits dans plus de 40 langues, qui s'est essayé aux textes romanesques, autobiographiques ou politiques, avec en filigrane toujours des interrogations philosophiques, et l'homme auquel nous rendons hommage ce soir. En studio avec moi, l'écrivain, essayiste, traducteur et critique littéraire Gérard de Cortanze, l'un des spécialistes de Paul Auster en France, devenu également l'un de ses amis. Il a consacré des articles à l'écrivain américain ainsi que 2 ouvrages, La solitude du labyrinthe et Le New York de Paul Auster. À distance, l'éditrice historique en France de Paul Auster chez Actes Sud, maison qui a publié tous ses livres, Marie-Catherine Vachet, et nous saluons à distance celle qui avait pris le relais pour le dernier livre, Jade Arguerol. Il y aura toujours à distance des interventions d'amis et collaborateurs de Paul Auster, comme Sophie Kahl, dont le double apparaît dans le roman Léviathan et qui a fait avec l'écrivain des jeux, notamment relaté dans Gotham Handbook signé à 4 mains. Laure Adler, qui a interviewé plusieurs fois Paul Auster et est devenue son amie, nous appellera de New York, et Nancy Houston honorera la mémoire de son ami en lisant une lettre écrite à son adresse aujourd'hui. Il n'y a pas de mot consolatoire quand quelqu'un meurt, mais Pictet a formulé une belle idée qui peut faire office d'appui lors d'un deuil. Il ne faut pas penser qu'on a perdu un disparu, mais qu'on l'a rendu, c'est-à-dire qu'il nous a été prêté pour un laps de temps donné, une période pour laquelle nous pouvons être reconnaissants de l'avoir eu à nos côtés. Bonsoir et bienvenue dans Grand Canal.
France Inter, Grand Canal, Eva Bester.
Bonsoir Gérard de Cortanze.
Bonsoir.
Bonsoir Marie-Catherine Vachet. Vous êtes
bonsoir.
En ligne ? Oui, bonsoir. Gérard de Cortanze, pour vous, Paul Auster était quelqu'un d'assez secret qui disait qu'il se découvrait lui-même de livre en livre. Est-ce que vous, en le côtoyant et en écrivant sur lui, vous avez retenu quelque chose, vous l'avez percé à jour ?
Vous savez, il disait, au fond, un pas dans un livre, c'est comme un pas dans la vie. C'est exactement la même chose. Il disait aussi, au fond, qu'est-ce que fait un écrivain ? Il écrit des biographies, il écrit la vie des gens. Et c'est ça que je retiendrai d'abord de lui, c'est-à-dire ce rapport particulier à la vie, qui n'est pas un rapport théorique, qui n'est pas un rapport universitaire. Enfin, c'est un rapport quotidien, existentiel, où l'enfance a une très 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 grande importance. Il disait, on écrit toujours à partir d'une faille d'enfance. Alors, on peut trouver ça banal. Mais ça n'est pas si banal que ça, parce que chacun a son enfance et chacun a ses failles, et c'est à partir de ces failles que lui écrivait.
Marie-Catherine Vachet, vous avez été l'éditrice historique en France de Paul Auster et vous avez publié une lettre qu'Actes Sud a diffusée. Comment décririez-vous son œuvre aux auditeurs qui ne l'auraient pas encore lue ?
Monumental. C'est-à-dire que, en vérité, je m'aperçois, je le savais que cette œuvre était importante, mais à la disparition de Paul, j'ai pris conscience, pas curieusement, mais de l'immensité de cet édifice romanesque, littéraire. Et donc, je le décrirai comme un explorateur des gouffres.
Ah, c'est très beau, explorateur des gouffres.
Un enquêteur.
Comme il y en avait souvent dans son œuvre, des enquêteurs, des détectives existentiels.
Des détectives, et c'est comme ça que je le vois dans le noir, moi, Paul. Il est toujours dans le noir avec comme une espèce de lampe frontale à éclairer des sortes de labyrinthes qu'il a lui-même construit ou qu'il a découvert, qui était préexistant à son œuvre, et c'est une exploration permanente.
Paul Auster est né en 1947 à Newark, une banlieue new-yorkaise dans le New Jersey. Il est mort à Brooklyn, New York, le 1er avril dernier. Son épouse, la grande écrivaine Siri Husvedt, avait annoncé en mars 2023 qu'il souffrait d'un cancer des poumons. Elle vient de publier un texte sur Instagram où elle regrette de n'avoir pu annoncer son décès elle-même et relativise les étiquettes que les médias s'empressent de donner à l'œuvre de son mari. Salman Rushdie, autre ami, en parle aussi dans son dernier livre, Le Couteau. Mais pour rendre hommage à Paul Auster, c'est évidemment de vie qu'on va parler. Alors commençons par le début, sa passion pour le baseball, l'anecdote du stylo et son destin d'écrivain que vous relatez dans votre livre Le New York de Paul Auster, Gérard de Cortanze.
Oui, alors il est petit garçon, il a 8 ans, il assiste à un match de baseball et il y a un grand joueur de l'époque qui s'appelle Willie Mays et vraiment c'est son idole quoi. Et à la fin du match, faut imaginer ce petit enfant, il le croise. Donc, il a sa balle, et sa balle de baseball à la main, il veut une signature. Tout le monde cherche un stylo, un crayon, personne n'en a. Et le joueur s'en va. Mais bien des années plus tard, puisque Paul a raconté ça dans un de ses livres, il y a un de ses lecteurs qui lui envoie une balle dédicacée avec la dédicace de Willie Mays. Et ça, c'est quelque chose de... C'est vraiment Paul Auster qui est dans cette histoire-là. Et ça me permet d'embrayer sur une image que je déteste, que je ne supporte pas, c'est de dire que Paul Auster est le plus français des écrivains américains. Quand j'ai écrit ces deux livres, j'avais recensé, à l'époque, c'est sur des livres qui datent d'une vingtaine d'années, j'avais recensé 232 notations relatives au baseball. Donc, je ne connais aucun écrivain français ou européen qui parle autant du baseball et avec autant de passion. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il a publié sous un pseudonyme Paul Benjamin, qui va être d'ailleurs l'écrivain dans son film Smoke, un livre qui s'appelait Squeeze Play, c'est-à-dire c'est un fausse balle. Et c'est un coup précis du baseball, c'est-à-dire à la fin d'un match, une équipe est en train de perdre et elle tente un coup suicide, totalement oui, suicidaire, et si elle le réussit, le match est renversé et l'équipe gagne.
Si on fait un film d'un écrivain qui travaille, il n'y a rien à voir. Il y a beaucoup qui se passe, mais ce n'est pas visible. Quelqu'un m'a raconté une histoire drôle. Tu connais Monty Python, ce sont des comiques anglais. Et on m'a dit qu'un jour, ils ont fait une petite comédie avec Thomas Hardy, l'écrivain, avec tous les spectateurs comme un match de football. Et le type avec le micro dit, « Et maintenant, Monsieur Hardy, prends le stylo. » Et tout le monde applaudissait. C'est très drôle, parce que c'est ridicule, tout ça. Il n'y a rien à voir.
Gérard de Cortanze, vous avez écrit avec Guy Seligman le film Paul Auster's Confidential en 98 et vous l'avez longuement interrogé sur sa vie, sa carrière, son œuvre, des entretiens qu'on peut lire dans La solitude du labyrinthe. Et tout à l'heure, je parlais de son épouse Siri Husvedt qui justement s'amusait des étiquettes qu'on voulait à tout prix coller à Paul Auster. Vous-même, vous en avez soulevé une. Et quand on parle de Paul Auster ou de son œuvre, il y a toujours les mots suivants qui reviennent. La mémoire, la filiation, l'absence de père, le hasard, l'errance, New York, le baseball, les coïncidences, l'identité, les autres vies possibles, la solitude existentielle, la marche. Mais quand on l'interroge à ce sujet, il met des nuances à tout. Alors, je voulais savoir, je vais vous demander d'abord à vous, Marie-Catherine Vacher, est-il resté un mystère pour vous ? Ou qu'avez-vous perçu de cet homme ?
Il est resté absolument un mystère, oui. J'ai perçu l'être humain qu'il était par-delà l'espèce de statut du commandeur du grand écrivain célébré dans les 40 langues comme vous l'avez évoqué tout à l'heure ce qui me paraissait toujours fascinant chez lui c'était la l'espèce de sérieux intégral qu'il manifestait par rapport à sa mission d'écrivain. Et dans cette mission, il évitait justement de se répéter. Il était toujours dans une sorte de quête. Et du coup, moi, je récuse aussi les étiquettes qu'on peut vouloir lui apposer, parce que il a un parcours extraordinairement singulier, qui est pour moi de l'ordre du métaphysique beaucoup plus que de l'ordre, enfin, du narratif. Il le maîtrisait à merveille, mais il est comment dirais-je, commandé, inspiré par des préoccupations qui arrivent à faire la jonction entre la réalité des personnages et des situations qu'il met en scène, et en même temps, en effet, bon, le mystère, c'est peut-être un terme galvaudé, mais la grande énigme existentielle de la vie.
Pour moi, c'est une aventure dans la poésie, parce que bien sûr, j'aime beaucoup la poésie américaine du XXe siècle. On a des génies, Eliot, Pound, Stevens, Williams tant d'autres poètes. Mais la poésie française est différente. C'est une approche différente sur la question de comment écrire un poème. Et le lyricisme d'un Paul Éluard est quelque chose qui n'existe pas en anglais, chez les poètes anglais ou américains. Ou l'humour de Desnos. C'est très touchant, les poèmes de Desnos. Alors, ça m'intéressait de traduire. Quand j'avais 19, 20 ans, et plus tard, j'ai fait une longue, grande anthologie de la poésie française du XXe siècle.
Paul Auster sur la chaîne dans Boomerang d'Augustin Trapenard en 2018. L'écrivain était francophile, il apprend le français par hasard au lycée, visite la France très jeune, étudie la littérature française, anglaise et italienne à Columbia, s'installe en France en 71 où il reste 4 ans, et de retour à New York, il traduit des auteurs comme Sartre, Mallarmé et Simenon, il se passionne pour Montaigne aussi, et il y a Blanchot que même quelqu'un de langue natale française peut avoir du mal à comprendre. Gérard de Cortance, qu'est-ce qui lui plaisait tant en France ou dans la culture française?
C'est-à-dire, quand il est arrivé en France, c'est les années 70. Hein, c'est un type d'écriture particulier qu'on a vécu ensemble. C'est-à-dire la psychanalyse, la linguistique, le structuralisme. Et quelque part, on oublie assez souvent que Paul Auster vient à la fois, évidemment, de son histoire personnelle, de son rapport à son père, à sa mère, à cette enfance, mais aussi le lien quand même ténu avec cette époque, c'est-à-dire le post-68. On voit ça dans beaucoup de ses livres. Et ça aura, je pense, une répercussion importante sur la suite de son œuvre. Et lui-même, d'ailleurs, dit qu'il n'y a pas de grande différence entre la période où il écrit beaucoup de textes, par exemple, ses recueils de poèmes comme Disparition, hein, publié aux éditions Une, et ses romans. Il dit que c'est une seule et même vague, c'est un seul et même souffle. Le roman est le prolongement de mon travail poétique. Et dans ses livres, il y a des phrases, évidemment, qui peuvent résonner comme des poètes. Par exemple, le monde est dans ma tête, mon corps est dans le monde.
Alors cette phrase, elle est très importante, justement, dans l'écriture de Paul Auster. Il y a presque tout dedans, puisqu'il y a la géographie extérieure, la géographie intérieure, les espaces mentaux.
C'est quelqu'un qui ne cessait de répéter, à juste titre, que l'écrivain est toujours en exil. Il est toujours déplacé, il est toujours incongru, il est toujours réfractaire, il est toujours mal dans sa peau. L'écrivain, c'est quand même tellement bizarre, ces gens qui passent leur temps à écrire, ce sont des béquilles, l'écriture. Et il me disait, c'est bizarre, Gérard, d'être écrivain.
Là, vous avez cité une phrase où il y avait aussi le corps, Gérard de Cortanze. Justement, j'ai commencé par le sport, parce que le corps est très important chez Paul Auster. Il lit l'écriture à la marche. Je cite cet extrait de Chronique d'hiver. Non, pas vraiment ?
C'est-à-dire, non, je ferais. Alors, c'est vrai, la marche est très importante.
Oui.
La marche dans New York, bon. Mais alors, le sport, je peux vous raconter une anecdote qui est intéressante. C'est que je lui disais, mais enfin, tu manges n'importe quoi, tu picoles, tu fumes, tu ne fais jamais de sport. Il m'a dit, si. Une fois par an, dans le Minnesota, à Noël, je fais une partie de basket avec mon beau-frère.
Oui, et il fait du sport dans ses livres, donc, c'est déjà ça.
Voilà.
Marie-Catherine Vacher, est-ce que vous pouvez parler de... Enfin, je voudrais d'abord citer cet extrait de Chronique d'hiver où Paul Auster cite Ossip Mandelstam qui s'interroge « Je me demande combien de paires de sandales Dante a usées en travaillant sur la Commedia ». Et oui. Auster conclut « L'écriture comme forme intérieure de danse ». Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot de la place du corps dans son œuvre, Marie-Catherine Vacher ?
Il y a un paradoxe, moi j'aime beaucoup citer une phrase qu'il a dite ou écrite, mais dite aussi, qui est enfin la suivante. Il ne faut jamais écrire en face d'une fenêtre ouverte sur le monde et le dehors, mais toujours en face d'un mur, de manière à ne pas être distrait et de ne pas manquer l'éventuel avènement, je cite de mémoire, l'éventuel avènement de l'invisible. Donc, moi, je le visionne assis à sa table de travail face à un mur nu. Je n'ai jamais visité son cabinet d'écriture. Mais c'est dire que c'est un corps actif quant à la main. Mais il y a aussi en même temps cette immobilité nécessaire pour qu'advienne autre chose. Après, pour ce qui est du corps, ce que je retiens aussi de Paul, c'était qu'il avait c'était un hédoniste aussi. C'était quelqu'un qui avait un appétit de la vie, qui quand il venait en France, ne se contentait pas de traduire des poètes, mais qui avait appris là aussi à se montrer soucieux de gastronomie, etc. Après, le sport qu'il pratiquait une fois par an dans le Minnesota, je crois que ça dit à peu près l'essentiel de son rapport à ce corps-là, à ce corps performant, ou à ce corps... ça se passait ailleurs, je pense, justement, soit dans la marche, ça se passe dehors, mais l'écriture, elle se passait devant, face à ce mur.
Et bien justement, parlons du corps qui remue avec un morceau de Lou Reed, qui était son ami et que Paul Auster appréciait beaucoup, Dirty Boulevard.
Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down. Dirty Boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the Dirty Boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out.
L'écrivain canadienne Nancy Houston, venue nous rendre visite il y a quelques mois dans Grand Canal, a eu envie d'écrire une lettre à son ami Paul Auster.
Paul, ami cher, j'ai envie de retracer en quelques mots ta présence dans ma vie. C'est une chance pour nous autres d'avoir une fragile existence de papier, indépendamment de notre fragile existence de chair. Je t'ai connue sur papier avant de te connaître en personne. En 1988, un ami new-yorkais m'a offert ta trilogie. Puis j'ai découvert ton tout premier livre, L'invention de la solitude, bouleversant hommage à ton père, et été transportée par le voyage d'Anna Bloom, dystopie incroyable qui décrit un Newark, New Jersey post-apocalyptique. J'ai enfin fait ta connaissance à Montréal en septembre 1993, quand paraissait ton Léviathan et mon Cantique des Plaines, à la fête de rentrée de nos éditeurs communs, le MEAC au Québec et Actes Sud en France. Nous étions si proches de ces éditeurs. Ensuite, 30 années durant, nos chemins se sont croisés et recroisés irrégulièrement. On ne s'écrivait pas entre-temps, mais on s'emparait joyeusement de chaque occasion de se voir à Paris de nombreuses fois, avec ou sans nos conjoints. On parlait enfants, bouquins, politique, on était en vie. À Arles aussi, pour les 30 ans d'Actes Sud, où j'ai vu et adoré ton film « Loulou on the Bridge ». À Liège, où sous le regard ému de notre cher Hubert Nissen, l'on nous a fait docteurs tous les deux. À Brooklyn, où j'amenais chez vous, toi et Siri, ma fille, ma yiddish mama, mon peintre suisse. Te rappelles-tu? Dans notre vie pendant ce temps, il y avait des hauts très hauts, des bas très bas. On se savait mortel et chanceux. On savait cette chance toujours fragile. Encore à l'été dernier, se sachant déjà malade, j'ai visité l'expo aux rencontres photographiques d'Arles où tu avais écrit des textes pour accompagner des photos sur les armes à feu et les morts qu'elles causent aux États-Unis. On était pareillement graphomanes, Paul. Nos livres s'empilaient. Écrire était notre façon d'exister, de comprendre le monde, le passer par le tamis de notre regard, de notre humour, de notre indignation. On avait des passions multiples et sans doute un désespoir secret. Paul, je voulais te dire merci. C'était beau de te connaître et c'est encore très beau de pouvoir te lire. Ta voix m'habite, tu sais. Elle figure parmi celles qui m'aident à continuer. Tu es parti, mais bon. Moi aussi, je partirai bientôt, mais bon. On a la chance d'avoir ces fragiles existences de papier pour prolonger un peu nos fragiles existences de chair. Je te remercie pour toute la beauté que tu as créée, tout l'amour que tu as fait, toutes les questions que tu as posées à notre époque, à notre monde, et pour ta recherche de sens. Merci Paul, Nancy.
Merci Nancy Houston pour cet émouvant hommage. Paul Auster révère très tôt la littérature. Il découvre la foisonnante bibliothèque d'un de ses oncles, traducteur de Virgile et Homère en anglais. À 12 ans, il se met à composer des poèmes, il publie des recueils et ce n'est qu'à partir de 79 que s'opère le passage à la prose avec Espace Blanc, inspiré par un spectacle de danse et surtout avec le roman autobiographique L'invention de la solitude. Marie-Catherine Vachet, le livre fut traduit par Christine Leboeuf chez Actes Sud. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement votre rencontre avec Paul Auster, l'intervention aussi évidemment dans cette histoire d'Hubert Nissen, et voilà, comment s'est passée la rencontre?
La rencontre en personne.
Bah en personne, comment vous êtes-vous justement encanaillé avec ce merveilleux écrivain pendant toutes ces années?
Eh bien, en fait, c'est au moment où j'ai été, chargée de suivre le travail de Paul Auster au sein de la maison, que j'ai commencé, enfin que j'ai rencontré Paul pour la première fois. La première fois en personne, c'était au moment de la grande fête que Actes Sud avait organisée pour à l'occasion de la remise du prix Médicis étranger à Paul pour Léviathan. Voilà, ça c'était la première apparition, mais je connaissais évidemment Paul par ses livres, mais je connaissais aussi, bon, comme le symbole qu'il était déjà à l'époque dans le catalogue d'Actes Sud et bien au-delà.
Et tous ces livres sont chez Actes Sud, tous ces livres en France?
Tous.
Oui, bravo.
Tous ces livres sont chez Actes Sud. Cette fidélité est à saluer aussi. Je crois que, bon, ça a été un compagnonnage réciproque. Et après ce compagnonnage, ça a été de l'amitié, je crois, entre notre maison et cet auteur d'exception.
On me signale que nous avons en ligne l'artiste Sophie Kahl qui a eu la gentillesse d'accepter de nous parler de sa collaboration avec Paul Auster. Bonsoir Sophie Kahl, merci d'être avec nous.
Bonsoir.
Vous vous êtes tous deux, avec Paul Auster, inspirés artistiquement, voire existentiellement. Votre double imaginaire apparaît dans son livre Léviathan et vous avez fait ensemble le livre Gotham Handbook. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre collaboration ?
Oui, ça avait commencé par l'idée d'un metteur en scène, Michael Radford, de faire un film sur moi. Il avait demandé à Paul Auster d'en écrire le script. Et puis, donc, Paul s'est informé, on ne se connaissait pas. Et finalement, ils n'ont pas trouvé l'argent nécessaire pour réaliser le film. Mais comme Paul avait accumulé des documents, il a décidé de les injecter dans Léviathan. Donc, son personnage de Maria, sur un chapitre, je crois, une quinzaine de pages, est basée sur certaines choses que j'ai faites. Elle suit des gens dans la rue, elle est stripteaseuse, elle se fait suivre par un détective, elle est femme de chambre dans un hôtel, elle vole un carnet d'adresse, elle fait un rituel d'anniversaire, enfin voilà, il a doucement mis dans. Et puis, elle m'échappe complètement. Elle devient Samaria à lui et le roman suit son cours. Et donc voilà, c'est à cette occasion qu'il m'avait envoyé le script, enfin le livre avant sa publication et on s'est rencontrés à cette occasion.
Et puis ensuite, des instructions à l'usage personnel de Sophie Calle concernant la façon d'embellir la vie à New York, à sa demande. Et vous avez suivi les rituels inventés par Paul Auster pendant combien de temps ?
Non, j'ai commencé par m'apercevoir que dans le chapitre qui me concernait, il y avait deux choses que je n'avais pas faites, à savoir manger selon une gamme chromatique, bleu un jour, rouge l'autre, et puis vivre selon trois lettres de l'alphabet, le B, le C et le W. Et ça m'a amusée parce que c'était vraiment dans mon chapitre. Donc j'ai commencé à manger selon la gamme chromatique et vivre selon ces trois lettres de l'alphabet. Et puis je me suis dit que ce serait intéressant d'inverser tout cela, c'est-à-dire que puisqu'il avait utilisé ma vie pour me transformer en personnage de fiction, je lui ai proposé d'écrire un roman sur une femme qui aurait mon âge, française, et moi d'obéir à son livre en tout point. Donc je lui ai donné un an de ma vie en lui disant que, à part, j'avais le droit, je pense, à deux ou trois pages arrachées pour des choses que je ne pourrais absolument pas réaliser mes yeux. Et donc, je lui ai demandé de faire ce livre auquel j'obéirais pendant un an. Et il n'a pas voulu, il a trouvé que ce serait trop de responsabilité pour lui, que si par exemple il m'arrivait quelque chose alors qu'il m'avait donné des ordres, il se sentirait responsable. Donc il a résisté. Et tant qu'il a résisté, j'ai insisté. Et il a fini par m'envoyer ce qu'il appelait, ça s'appelait Gotham Handbook, New York Mode d'Emploi, et manuel d'instruction à l'usage personnel de Sophie Calle concernant la façon d'embellir la vie à New York, entre parenthèses, à sa demande. Voilà. Et c'est à cette voilà. Et j'ai donc obéi. C'était pas exactement ce que j'avais demandé. Moi, je voulais devenir un personnage de fiction, réellement. Et là, il me donnait des choses à faire, distribuer de la nourriture à tous les gens dans les rues de New York, prendre possession d'un lieu public et le transformer en lieu privé.
Sourire,
exactement. Et puis, ce lieu que j'ai pris, c'était une cabine téléphonique, donc que j'ai entièrement décorée. J'ai mis pas mal de choses à l'intérieur et j'ai photographié et enregistré les gens qui utilisaient ma cabine, entre guillemets.
Une dernière question, Sophie Calle. Paul Auster avait-il, selon vous, et malgré les drames personnels qu'il a connus et les interrogations métaphysiques qui traversent son œuvre, un rapport ludique à l'existence ?
Ah oui, tout à fait. Sinon, il n'aurait pas joué avec moi, déjà. Il n'a pas joué qu'avec moi. Mais oui, il résistait à cause de l'inquiétude de la responsabilité. Mais je ne pense pas qu'il résistait sur le sujet, c'est-à-dire sur le jeu. Simplement, voilà, il ne voulait pas qu'il m'arrive quelque chose et que ce soit de sa faute. Mais pour le jeu, oui, sans aucun doute.
Merci beaucoup, Sophie Calle.
De rien. Au revoir.
Au revoir. Alors, je suis toujours avec vous, Gérard de Cortanze et Marie-Catherine Vacher. Paul Auster, ne rencontre pas le succès immédiatement. Le succès vient, en tout cas de façon internationale, avec sa trilogie new-yorkaise.
Oui, d'ailleurs, son premier livre est refusé par 17 éditeurs.
Donc ce n'est pas un mythe, ça, 17 éditeurs.
Ah, c'est vrai, oui, 17 éditeurs. Et moi, je me souviens très bien que les premiers papiers publiés sur son œuvre n'étaient pas du tout le dateur. Mais pas du tout, du tout. Un certain nombre de critiques, qui sont de tellement mauvais lecteurs...
Sans un avis personnel.
N'aimait pas son œuvre. Et petit à petit, tout à coup, on s'est pris à s'intéresser à ce qu'il écrivait et à en faire un grand écrivain. Mais au départ, ce n'était pas ça du tout. Mais je voudrais juste ajouter une petite chose concernant la grotte de travail.
Alors allez-y.
Voilà.
Brièvement.
Oui. Moi, j'ai vu ce bureau.
C'est à vous qu'il répond, à Marie-Catherine Vacher.
Voilà, qui était à moitié enfoncé. Et il travaillait devant un mur baissé, un mur aveugle. Les stores étaient baissés. Et la grande contradiction que je trouve passionnante chez lui, c'est qu'il travaillait dans cette grotte. Et en même temps, il était absolument fasciné par un funambule qui s'appelle Philippe Petit et qui avait tendu un fil entre les deux tours jumelles. Il me parlait en permanence de ce funambule, et c'est intéressant. Je crois que cette œuvre se promène entre cette grotte et ce funambule en plein air, au sommet des tours jumelles.
Donc à la fois la légèreté et la gravité, et justement, Marie-Catherine Vacher, j'aimerais bien que vous nous racontiez un peu vos rapports de travail, puisque pour Paul Auster, l'écriture semblait une chose douloureuse. Il avait dit par exemple, c'est comme si on m'arrachait une dent tous les jours, ou que chaque livre était pour lui un échec.
Oui, c'est ce que je disais, enfin c'est ce que j'appelais tout à l'heure une forme de sérieux en effet et de douleur qui transparaissait quand il parlait de son travail d'écrivain qui était vraiment quelque chose de sacerdotal pour lui. Et quand il y avait l'autre dimension qui était celle d'un éditeur français relisant la traduction d'un auteur qui écrit dans une autre langue, en l'occurrence en anglais pour ce qui est de Paul, évidemment, mais pour ce qui est de Paul, avec cette spécificité que Paul, en tant que grand francophone, etc., trouvait, je crois, un certain plaisir à ce travail de relecture minutieux, pointilleux, exigeant. Moi, j'ai beaucoup appris en travaillant avec lui, parce que justement j'ai passé le français au crible de l'anglais et l'inverse. C'est-à-dire que j'avais l'impression d'être au cœur du réacteur de l'écriture, parce que tout en vérifiant la traduction française, il m'expliquait pourquoi il avait choisi tel mot plutôt que tel autre, pourquoi là il fallait, on en était là, hein, il fallait ici une virgule et là ne pas manquer de noter par un point la fin d'une phrase. Il y avait aussi une quête de sobriété, de justesse, véritablement impressionnante et très exigeante par rapport à ce rendu final du texte. Et en même temps, il y avait une jubilation. Je crois que là, il y avait du jeu aussi chez Auster. On parlait du ludique tout à l'heure, mais je crois qu'il prenait un plaisir extrême à ce travail minutieux, un peu les coulisses de la traduction, de l'édition dans une langue autre, ce qu'il n'a sans doute pas fait dans les autres langues, parce que je pense pas qu'il parlait d'autres langues aussi avec autant de maîtrise, hein, qu'il parlait le français. Mais là, je crois qu'il trouvait un plaisir extrême.
Siri est ma première critique et la seule qui compte. Je lui montre tout ce que j'écris.
Paul a pris l'habitude de me lire son travail régulièrement, bien plus souvent que moi je ne lui lis le mien. J'écoute très attentivement son livre, chapitre après chapitre. Si quelque chose me pose problème, je ne l'arrête pas sur le moment. Je lui en parle par la suite et on en discute.
Si elle me dit que quelque chose ne fonctionne pas, je sais qu'elle a raison. Je n'ai jamais ignoré un seul de ses conseils.
Une des raisons pour lesquelles notre amitié littéraire perdure, c'est qu'aucun de nous deux n'est particulièrement concerné par ce que j'appellerais les sentiers battus des œuvres romanesques ou des œuvres non fictionnelles. Je ne cherche pas du tout à reproduire les usages en la matière. Et Paul ne le recherche pas non plus.
Siri est la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais connue. Je l'aime. Je l'aime profondément. Je l'aime plus que j'aime ma propre vie.
Extrait du documentaire Paul Auster, le jeu du hasard de Sabine Liddell, sorti en 2018. Paul Auster rencontre l'écrivaine Siri Husvedt en 1980 lors d'une lecture dans une librairie. C'est un coup de foudre qui durera jusqu'à sa mort. Ils sont les parents de Sophie et nous envoyons évidemment nos condoléances à toute la famille de Paul Auster. Marie-Catherine Vacher, vous avez dirigé la collection Lettres anglo-américaines d'Actes Sud. Dedans, il y a Don DeLillo et Russell Banks, dont Auster avait justement chaudement recommandé les écrits. Et il y a aussi son épouse, Siri Husvedt. C'est pas bizarre d'être l'éditrice d'un couple ?
Si, au départ, ça semblait un petit peu acrobatique. Et puis finalement, compte tenu du type de rapport entre écrivains que Siri et Paul entretenaient, finalement, ce compagnonnage entre eux lissait un petit peu les appréhensions qu'on pouvait avoir quant à avoir un couple d'écrivains au catalogue. Et quand je voyais Siri pour ses livres et Paul pour ses livres, de toute façon, chaque écrivain, l'un et l'autre, je l'ai considéré en tant que tel, et j'oubliais alors cette sorte de configuration familiale, conjugale. Et je ne voyais plus que le couple d'écrivains qu'ils étaient. Quand Siri dit qu'ils étaient tous deux peu intéressés à frayer les sentiers battus, ça c'était totalement vrai. Je pense que c'est le ciment de leur longue union et leur long amour.
Brooklyn Boogie. Pretty for the people, Flatbush Extension, Coney Island, and the Bell Parkway, and the boogie for the Brooklyn. Come in, boy, Luciano. Play some tones for the Borough Hall.
Brooklyn Boogie dans Grand Canal sur France Inter, sur la bande originale du film Brooklyn Boogie de Wayne Wang, dont le scénario est signé Paul Auster, tout comme celui de Smoke, Ours d'argent à Berlin en 1995. Et je vais vous interroger dans quelques instants, Gérard de Cortanze, sur le fait que Paul Auster était aussi cinéaste. Mais on me signale que nous avons Laure Adler au téléphone. Bonsoir,
oui,
Laure Adler.
Bonjour.
Bonsoir.
Bonjour.
Je suis navrée de vous retrouver dans des circonstances aussi tristes et je vous remercie d'être là. Vous êtes en direct de New York, la ville de celui que vous qualifiez de Balzac new-yorkais du 21e siècle. Vous l'avez reçu plusieurs fois et vous étiez son amie.
Je le suis devenue, je l'ai connue quand j'étais très jeune, par l'intermédiaire de mon compagnon, parce qu'ils se sont connus eux-mêmes très jeunes, à l'âge de 18-19 ans, quand Paul arrivait... À Paris, il avait déjà fait beaucoup de petits boulots et il était à l'époque plutôt poète qu'écrivain. Il savait pas très bien quoi faire de sa vie et petit à petit, il a tiré ce fil de la structure narrative qu'il a réinventée dans une littérature américaine assez peu oxygéné du côté de la fiction. Donc, il a redonné du souffle, je trouve, à une littérature moderne contemporaine, tout en ne créant pas de mésalliance avec les grands écrivains qu'il admirait énormément, comme William Faulkner, ou plus proche de nous, Philip Roth. Et ce que je voulais dire, après avoir écouté cette émission et remercié toutes les personnes qui ont si bien parlé, c'est que moi-même, voilà, je suis émue, comme beaucoup de personnes, de la perte de quelqu'un qui était non seulement un grand écrivain, mais qui était aussi, et je voudrais le souligner, quelqu'un d'extraordinairement gentil, quelqu'un qui va manquer à l'humanité parce qu'il était animé par des principes de bienveillance, d'intérêt de l'autre avec un grand A. C'est un homme d'une rare modestie qui ne savait pas du tout ce qu'il revêtait aux yeux du monde entier, pour qui d'ailleurs ça n'avait guère d'importance parce que il était comme un petit enfant à l'intérieur de sa tanière dans sa toute petite maison de Brooklyn où il travaillait devant sa machine à écrire.
Trois étages.
Et c'était quelqu'un qui cherchait toujours, voilà. Il n'était jamais dans une tranquillité béate. Et je crois qu'au niveau de la littérature, c'est ça qui va nous manquer, son espèce de principe d'incertitude, cette heuristique d'aller chercher encore plus loin dans les mots la signification ou la double ou la triple signification qu'un mot peut avoir. À chaque fois qu'on ouvre un livre de Paul Auster, on a l'impression d'être sur un bateau qui tangue par forte houle parce que les mots mêmes sont minés de l'intérieur. Et je crois que c'est ça qui va beaucoup, beaucoup, beaucoup nous manquer.
C'est un très, très beau partage, Laura Adler. Je vous remercie. Je voudrais vous poser une dernière question. On dit souvent que Paul Auster était plus apprécié en Europe que dans son pays. Vous êtes à New York, vous êtes sur place. Est-ce qu'on parle de sa disparition dans les médias américains ?
Partout, partout.
Ah, quelle bonne nouvelle.
Il est, voilà, partout. Là, dans moins d'une heure, je vais être à la New York Université, on va parler de lui. On parle de lui à Columbia. Vous savez que les universités, là, sont en pleine révolution, que les locaux sont occupés, qu'il y a une certaine tension. Mais le prince de New York, le prince intellectuel qui n'aurait pas départagé les étudiants avec les enseignants, il aurait dit « il faut vous écouter, il faut vous exprimer ». Le prince de New York qui est partout, partout en une, c'est Paul, c'est notre Paul. Et voilà, je pense aussi beaucoup à Siri parce que elle a beaucoup écrit sur la maladie de Paul, ils l'ont affronté ensemble. C'est très rare de voir un couple d'écrivains qui s'aiment autant, qui se respectent autant et qui a tellement voulu avancer ensemble. Et je pense aussi à Sophie et à son petit garçon qui est tout petit et qui s'appelle, comme par hasard, Miles. Donc, vive Paul, Paul, le grand-père de Miles.
Et une recommandation à lire, si vous ne deviez choisir qu'un seul livre de Paul Auster ?
Eh bien, j'en choisirais trois, parce que c'est comme ça que j'ai commencé, comme beaucoup de gens, sur une plage que j'ai pas quittée. C'est la trilogie new-yorkaise. Vous avez devant vous immensément de bonheur si vous avez la chance de ne pas avoir ouvert cette trilogie.
Merci beaucoup, Laura.
Et Baumgartner. Et Baumgartner.
Le dernier.
Qui est... Ben oui, parce que c'est vraiment un livre philosophique sur la mort qui vient et sur la distance qu'il faut savoir prendre avec cette satanée mort.
Merci beaucoup, Laura Adler.
Merci à vous.
Gérard de Cortanze, on parlait du côté cinéaste de Paul Auster. Est-ce que vous voulez nous en dire un mot ?
Oui. Avant, je voudrais rebondir sur ce que disait Laura Adler. Il y a une phrase de Paul Auster qui est essentielle, qui me répétait souvent. Il me disait « C'est trop facile d'être cynique. » C'était quelqu'un qui était tout sauf cynique. Et ça explique beaucoup de choses autour de son œuvre et de ce qu'il était. Alors, le cinéma, il a eu une expérience assez amère du cinéma. Il a beaucoup aimé s'engager dans ses films, Smoke, Broken Buggy. Mais il est allé au Festival de Cannes. Et finalement, il en a tiré des choses assez négatives. Très vite, il m'a dit « Je crois que j'ai perdu mon temps. » en faisant du cinéma. Mon lieu, c'est l'écriture. Mon lieu, c'est le livre. Je me sens vraiment bien dans cette dimension-là. Et je crois qu'il avait entièrement raison.
Les livres de Paul se lisent comme des descriptions de films, sous bien des aspects. Ils sont très visuels et évocateurs. Finalement, il écrit pour qu'on puisse voir le film. C'est ce que je ressens. Là aussi, avec 4-3-2-1, j'ai vu ces hommes devant mes yeux. Ils sont déjà castés. Il a fait le casting lors de l'écriture. En fait, il est aussi un réalisateur.
C'est Wim Wenders qu'on entend sur son ami Paul Auster dans le documentaire déjà cité, Le jeu du hasard. Et on arrive à une question évidemment essentielle. Que lire de Paul Auster? Alors, Gérard de Cortance, que recommandez-vous? Quels sont vos favoris? Par quoi commencer?
J'ai deux livres peu connu parmi ces moins connus, c'est Fausse balle dont je parlais tout à l'heure.
Le policier écrit sous pseudonyme.
Ce policier écrit sous pseudonyme, c'est quelque chose qui nous amuse beaucoup tous les deux parce que en fait, il a écrit ça en pensant qu'il deviendrait très riche. Il n'est pas devenu très riche avec ce livre-là. Il pensait aussi devenir très riche en inventant, tenez, pas de hasard, un jeu de cartes sur le baseball. Les deux ont été un échec, donc, mais je recommande la lecture, vraiment, de Fausse balle, livre peu connu, et puis Le voyage d'Anna Blum. C'est un de mes préférés, cette sœur qui part à la recherche de son frère dans une ville dévastée, avec des gens qui volent les enfants, avec des gens qui sautent des murailles, et puis cette scène fantastique. C'est Borges qui dit que tout conduit à un livre, et chez Auster, tout conduit aux bibliothèques. C'est la bibliothèque de Mandelbaum, c'est-à-dire l'oncle qui l'a poussé à écrire. Il découvre dans des paquets des livres, et c'est à partir de là qu'il commence à écrire. Et la bibliothèque, on va la retrouver dans Moon Palace, hein, et on la retrouve dans Anna Blum. Ces gens qui sont entourés, enfermés, qui ont froid, qui ont faim, ils finissent par brûler les milliers de livres de la bibliothèque.
On se demande si on peut brûler la Bible.
Et voilà, et la question fondamentale, et ça, quand ça l'amusait beaucoup. Ils disaient, tu comprends, ils arrivent là, ils disent, qu'est-ce qu'on va faire avec la Bible? On va la brûler ou on ne va pas la brûler? Évidemment, ça passait par le rire, mais derrière tout ça, il a une interrogation fondamentale sur l'existence, sur le livre, sur le rapport au livre, sur le rapport à l'écriture. C'était ça qui était très intéressant, c'est austère. C'est-à-dire, sous une apparente légèreté, il y a une profondeur insondable. Et c'est ça qui est très très réussi, c'est-à-dire qu'on a un accès direct à Paul Auster. C'est un peu comme l'étoile de Frida Kahlo, vous voyez. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'un savoir universitaire pour rentrer dans cette littérature. On y entre facilement, et là on est submergé par la qualité des interrogations posées dans ses œuvres.
Marie-Catherine Vacher, il nous reste peu de temps, mais quels sont les livres de Paul Auster que vous recommanderiez ?
Bah écoutez, je vais pas être très originale, surtout après le panégyrique que Gérard vient de dresser, c'est Le voyage d'Anna Blum.
Le voyage d'Anna Blum.
Ça fait trois fois, puisque Nancy Hudson, tout à l'heure, a parlé de cette dystopie qui, moi, m'avait totalement envoûtée. Et sinon, je recommanderais quand même beaucoup Léviathan. L'histoire de ce jeune écrivain qui fait exploser des statues de la liberté sur tout le territoire américain.
Dans lequel il y a le double fictif de Sophie Kahl.
Voilà, d'ailleurs. Et puis, pour les, disons, comme un challenge, mais un bonheur de lecture et un plaisir, 4-3-2-1.
Ah oui, 4-3-2-1.
Qui est quand même un chef-d'œuvre de construction narrative, d'inventivité, le livre des bifurcations du destin, et qui est absolument magistral. Mais il est un peu plus gros que les autres, il fait 1000 pages, mais c'est un voyage qu'il faut absolument ne pas hésiter à entreprendre.
Moon Palace.
Moon Palace aussi, vous ajoutez, Gérard de Cortan.
Moon Palace, oui. Oui. Oui, et la musique du hasard.
La musique du hasard. Oui,
vous savez, vrai. On va citer toute l'œuvre. Voilà, il faut lire tout Paul
Auster. On a le temps, on va rester là toute la nuit.
Voilà.
Tout Paul Auster.
Excellente initiative, oui.
Et autobiographique, un titre. Un récit autobiographique, je ne sais pas, Le Diable parle à la queue. On a vraiment 5 secondes.
Le Diable parle à la queue, ce sont ces années terribles. Voilà. Mm.
Merci beaucoup, en tout cas. Et puis la première phrase du livre des illusions, c'est « Tout le monde le croyait mort, mais les écrivains laissant au monde de grandes œuvres ne meurent jamais ». Merci à tous les invités qui ont participé à cet hommage, à Paul Auster, Gérard de Cortanze, Marie-Catherine Vacher, Sophie Kahl, Laure Adler et Nancy Houston. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas et Joseph Ascal, à la programmation musicale Jean-Baptiste Audibert, à la technique Ronan Mahé et dans un instant Very Good Trip avec Mishka Assayas.
En ce moment, plus que jamais, la recherche est essentielle. Gustave Roussy, classé premier centre européen de lutte contre le cancer, a besoin de vous. Saviez-vous que vos impôts peuvent aider à guérir le cancer de l'adulte et de l'enfant au XXIe siècle? Grâce à votre don, déductible de l'impôt sur la fortune immobilière ou de l'impôt sur le revenu, vous vous joignez au combat des médecins, chercheurs et soignants engagés au